Je vote pour la science avec Isabelle Bourgon.
Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Quelques minutes d'un événement astronomique rare qui ne se reproduira pas avant au moins une cinquantaine d'années au Québec, en 2079 dans la région de Blanc-Sablon, et même 180 ans pour l'observer de nouveau dans la région de Montréal. Plusieurs écoles primaires et la plupart des écoles secondaires de la Côte-Nord ont rendez-vous. Les élèves des écoles de l'Estuaire et de la moyenne Côte-Nord pourront assister à la sortie des classes avec leurs enseignants à cet événement. Ailleurs au Québec, de nombreuses écoles pédagogiques en raison de consignes gouvernementales de précaution. Pourtant, les risques d'avoir des dommages permanents aux yeux lors d'une éclipse sont infimes, comme le rapportent d'ailleurs de nombreux articles de Québec Science, de l'agence Science Presse et bien d'autres médias. Et pour tout connaître sur cet événement astronomique, restez là. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Camille Turcotte, directrice générale de l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Jonathan Gagné, astrophysicien, conseiller scientifique au Planétarium de Montréal et professeur associé à l'Université de Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Donc, une éclipse solaire, c'est un phénomène extrêmement prévisible, mais encore mal connu, comme on a pu le voir ces dernières semaines. Les consignes gouvernementales étaient un peu alarmistes et ont poussé de nombreuses écoles à renoncer à accueillir cet événement astronomique dans leur classe, ou plutôt dans leur cours d'école. Donc, pour ces écoles, la journée du lundi est une journée pédagogique, c'est-à-dire une journée de congé, alors que ça aurait pu être une journée de science, prétexte à de nombreuses activités pédagogiques. Nous allons essayer d'y voir clair. Donc peut-être, Monsieur Gagné, rappelez-nous ce qui se passe lorsqu'on parle d'éclipse solaire totale, comme on a la chance d'en avoir une au Québec.
Oui, c'est important de faire la différence avec les autres types d'éclipses, parce que l'éclipse totale, c'est vraiment celle qui est la plus unique, la plus rare et qui est de loin la plus spectaculaire. Ça n'a absolument rien à voir avec des éclipses partielles ou annulaires ou des éclipses de lune. Moi, j'en ai vu une dans ma vie et c'est un moment dont je vais me souvenir toute ma vie. Je criais incontrôlablement pendant la totalité. C'est pas dans mes habitudes. C'était vraiment incroyable. Et j'ai vu aussi des éclipses lunaires ou partielles et ça m'a jamais fait cet effet-là à ce point-là. Mmh. Donc, pour expliquer la différence, en fait, une éclipse partielle, c'est ce qui se produit quand la Lune va partiellement masquer le Soleil. Donc, le Soleil devient une espèce de croissant lumineux. Donc, c'est quand même vraiment joli. Il y a plein d'effets vraiment intéressants dont on va pouvoir discuter, qui peuvent être observés. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment le fun, mais c'est pas aussi fou que quand la Lune cache complètement le Soleil. Parce que là, ce qui va se produire, c'est que tout d'un coup, il fait noir, il fait froid instantanément. Ça prend pas 10 minutes, ça se refroidit graduellement. Non, non, il fait froid d'un coup. Il y a des, ça, dépendamment de la période de l'année, tu as des chauves-souris, des insectes qui sortent d'un coup. Et tu vois la couronne solaire. Donc, vous pouvez aller voir des images sur Internet de la couronne solaire. Sur photo, ça paraît comme « Ah, c'est beau, c'est spécial », mais quand on le voit dans le ciel, on dirait vraiment que c'est la fin du monde. C'est vraiment incroyable. C'est comme un bug dans la matrice, là. C'est la meilleure façon que je trouve de décrire ça. Le sentiment qui vient avec, là, c'est presque incompréhensible quand on le vit. Une éclipse lunaire, c'est quand la Lune qui passe dans l'ombre de la Terre. Donc, la Lune devient rouge cendrée, ce qui est vraiment très joli aussi, mais c'est pas du tout la même expérience. Donc, en fait, ce qui se passe, si on prend un peu de recul, c'est que la Lune passe entre la Terre et le Soleil et projette son ombre sur la Terre. Et cette ombre-là, ben, elle est toute petite. Ça fait un corridor assez étroit sur une carte où est-ce qu'il y a une bande de où, à partir de où on peut voir l'éclipse totale. Si on se retrouve à l'extérieur de la bande, on va assister à une éclipse partielle. Donc, le Soleil va devenir un croissant. Il faut vraiment se rappeler que c'est infiniment moins impressionnant, une éclipse partielle. Donc, allez regarder des cartes de la bande de totalité et c'est pas grave si vous n'êtes pas parfaitement au centre, mais il faut vraiment aller dans la bande de totalité. Et donc, c'est ça, la bande de totalité est relativement étroite et plus on se rapproche du centre, plus le moment spectaculaire de totalité va être long. Ça peut durer jusqu'à environ 3 minutes 30.
Entendu. Madame Turcotte?
Oui, absolument. J'ai la chance d'abord d'habiter dans la bande de totalité.
Il y a tout un écosystème qui a été mobilisé pour préparer les écoles à cet événement astronomique. Parlez-moi un peu.
Oui, en fait, j'ai été avisée. Moi, c'est une amie astrophysicienne, Julie Bolduc-Duval, de l'organisme à la découverte de l'univers, qui forme d'ailleurs en astronomie depuis plus de 10 ans là, les enseignants et enseignantes. Et elle m'a avisé qu'une éclipse totale s'en venait au Québec le 8 avril 2024. Alors, dès 2022, janvier 2022, j'ai interpellé le ministère de l'Éducation pour les inciter notamment à acheter des lunettes pour tous les jeunes. En fait, c'était notre souhait d'avoir 1 million de lunettes pour équiper tous les jeunes des écoles primaires et secondaires. Et ensuite, on a passé aussi des mois et des mois. Ben, je dis « on », en fait, c'est nos partenaires. Et nous, on transmettait l'information à nos membres. Donc, nos partenaires ont formé les enseignants, informé. On a équipé aussi des milliers d'écoles de lunettes pour les élèves.
Des lunettes à éclipse.
Exactement, des lunettes à filtre solaire. Et puis, on y voyait, nous, l'occasion, une occasion extraordinaire de vivre la science en direct. Parce qu'une des conditions pour un enseignement des sciences de qualité, c'est justement de plonger les élèves dans un contexte réel de science. Par exemple, au primaire, on va les sortir dehors, on va les emmener à observer la nature. Au secondaire, on les fait faire des laboratoires. Mais là, on y voyait vraiment une occasion d'avoir 1 million d'élèves qui vivent ensemble un phénomène absolument extraordinaire, comme vient de décrire Jonathan. Et ça nous donnait l'occasion de les éveiller à la culture scientifique, de les rendre curieux par rapport à l'astronomie, et aussi notre place dans l'univers qui peut être assez fascinante à philosopher, ça, dans ce contexte-là. Et voilà, c'était notre souhait pour tout le réseau.
Oui, parce que c'est un prétexte de science, mais ça peut être un prétexte aussi d'histoire, de français, ça peut rejoindre toutes les disciplines, finalement, autour de la science.
Absolument.
Qui pourrait graviter autour de ça.
C'est un moment pour s'émerveiller de la beauté de la nature aussi, en général, parce que souvent, quand on parle de science, on parle de choses un peu plus abstraites. Là, c'est un moment où est-ce que ça devient vraiment concret. Là.
Monsieur Gagnon, parlons d'abord peut-être de sécurité versus le port des lunettes. Mm-hmm. Rappelons d'abord que c'est important de se protéger les yeux et de porter des lunettes d'éclipse. C'est quoi des lunettes d'éclipse d'abord?
Bien, des lunettes d'éclipse, c'est un filtre en fait qui va bloquer presque toute la lumière, simplement pour ne pas saturer nos yeux puis pas blesser la rétine de nos yeux. Vous pouvez regarder le soleil, d'ailleurs, déjà tout de suite.
C'est la seule chose qu'on voit.
C'est ça. On voit un beau disque jaune. Parfois, quand il y a suffisamment de taches à la surface, on peut les voir un peu si on a des bons yeux. Mais on voit rien d'autre. Donc, pendant la phase où est-ce que la Lune commence à cacher le soleil, là, c'est amusant de pouvoir regarder le soleil devenir graduellement de plus en plus en croissant jusqu'à au moment de la totalité, autour de 3h26, je crois. Mais au moment de la totalité, quand le soleil est complètement caché par la Lune, il faut enlever les lunettes pour voir tout le phénomène. Puis autrement aussi, quand on ne regarde pas le soleil, il faut enlever les lunettes. Il y a plein de phénomènes super intéressants à observer, autre que de regarder directement le soleil. Et ça, on pourra en parler là, de ces phénomènes-là. C'est vraiment quand on fixe le soleil qu'on met les lunettes pour se protéger. Il n'y a rien de spécial pendant une éclipse qui fait que ça fait plus mal aux yeux que d'habitude. Vous avez déjà regardé le soleil, vous savez que ça laisse une empreinte dans l'œil, que ça peut faire mal aux yeux. Mm-hmm. C'est la même chose pendant l'éclipse. Le seul danger, c'est que normalement, quand on est dehors en plein soleil, on n'essaye pas d'observer quelque chose directement sur le soleil pendant une heure. Le problème, c'est si on essaye sans arrêt de fixer le soleil, puis si on se plisse les yeux pour essayer de voir le croissant sans filtre protecteur, c'est ça qui est dangereux. C'est excessivement rare qu'on se fait des dégâts permanents de cette façon-là à l'œil nu. Donc, il n'y a pas de matière à s'alarmer vraiment. Il faut juste se rappeler qu'on met le filtre quand on fixe le soleil pour éviter de se faire des dégâts, même si c'est presque dans 100% des cas des dégâts temporaires. Donc, il ne faut pas s'alarmer. C'est juste un outil pour ne pas se faire mal aux yeux en observant le soleil. Mais c'est ça, donc il y a plein de choses qui vont se passer, comme par exemple, quand le soleil devient en forme de croissant, un truc vraiment étrange, c'est qu'on peut regarder l'ombre par terre et n'importe quoi qui fait un petit trou, comme on peut prendre une passoire, par exemple, ou même en dessous des feuilles d'un arbre, les creux entre les feuilles de l'arbre font comme des petits trous, bien, ça va projeter une image de lune par terre. Donc, on peut regarder en dessous d'un arbre, on va voir plein de petites lunes qui correspondent à une image projetée du soleil. Et nos ombres même deviennent étranges. Parce que d'habitude, notre ombre, elle est un peu diffuse, elle n'est pas parfaitement nette parce que le soleil n'est pas tout petit, il n'est pas infiniment petit.
Vous avancez dans mes questions. Là. J'aurais voulu qu'on reste un petit peu juste encore sur les lunettes. Oui. Parce qu'on a parlé, ce n'est pas des lunettes de soleil qu'il faut mettre.
Ah oui.
C'est quoi les lunettes fiables, en fait? Parce que vous parlez d'un filtre.
Oui.
Mais comment on sait si les lunettes qu'on a été chercher, par exemple, à la bibliothèque fonctionnent et fonctionnent bien et que c'est celles-là qu'il faut mettre sur le bout de notre nez?
Oui, ben c'est important d'aller chercher celles qui sont certifiées. Il y a une norme ISO dont je ne me souviens plus du chiffre exact, mais il ne faut pas nécessairement aller, par exemple, sur Amazon parce qu'il y a plusieurs vendeurs qui peuvent faire semblant de mettre la norme. Ils peuvent même écrire le bon numéro ISO sur les lunettes sans que ça soit véritablement certifié. Ouais. Donc, il faut les obtenir de sources fiables. Donc, tous les endroits qui en ont distribué, comme les bibliothèques, par exemple, ou au planétarium, il y en a eu de distribués, ben tous ces endroits-là, ben c'est vraiment des lunettes qui ont été vérifiées, là, qui sont aux normes ISO. Quand c'est des bonnes lunettes, on voit vraiment seulement le soleil à travers, comme je mentionnais. C'est vraiment important de ne pas mettre de lunettes de soleil pour regarder l'éclipse. C'est vrai aussi, n'importe quand qu'on porte des lunettes de soleil, il ne faut pas fixer le soleil. C'est là qu'il y a des dangers qui sont quand même plus grands que de même juste essayer de regarder l'éclipse à l'œil nu. Si on se met à essayer de se protéger avec des choses qui ne sont pas appropriées, ça peut être très dangereux. Donc, on met pas des lunettes de soleil ordinaires, on n'essaye pas de regarder à travers des loupes ou des télescopes ou des trucs comme ça à l'œil nu. Ça peut être extrêmement dangereux parce que ça va concentrer la lumière. Vous avez peut-être déjà vu quand vous êtes quand vous étiez jeune, on peut prendre une loupe, on peut faire brûler des feuilles avec.
Même photographier avec une caméra, ça peut être dangereux pour l'œil et la caméra. Donc,
on évite de mettre l'œil.
Oui, faites attention, Madame Turcotte.
Oui, j'aurais aimé apporter une petite nuance. Oui. C'est vrai qu'on voit le soleil principalement avec les lunettes, mais on peut voir parfois des lumières très brillantes à l'intérieur comme des filaments d'ampoules. Je le mentionne parce qu'on a certaines écoles, nous, qui nous ont appelés en entendant cette information-là et en doutant de la qualité de leurs lunettes. Oui. Parce qu'on peut voir aussi si on met le filtre par-dessus la lampe de poche de notre cellulaire, on va voir une toute petite lumière. Puis ça, c'est normal, elles sont sécuritaires. Ouais. Mais on voit que les lumières très, 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 très brillantes.
Ouais. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Madame Turcotte, vous avez fait de nombreuses représentations donc auprès du gouvernement depuis janvier 2022, mais le gouvernement recommande plutôt de fermer les classes et vous devez être déçue.
En fait, le gouvernement n'a pas spécifiquement recommandé la fermeture de classes, mais ce qui est arrivé, c'est que la direction de la santé, la sécurité publique a émis des recommandations qui sont très alarmistes. Le ton est alarmiste aussi. D'ailleurs, c'est situé dans la section de leur site reliée aux sinistres et aux catastrophes naturelles. Donc, on a pourtant essayé de les rencontrer, essayé de leur faire changer d'avis, faire changer certaines informations sur cette page-là. Ils disent notamment qu'il faut garder les lunettes en tout temps, sans faire de distinction entre la totalité ou la partielle. Donc, ça a amené beaucoup de confusion dans le milieu. Et le ministère de l'Éducation, lui, attendait les recommandations de la Direction de la santé publique avant d'émettre ses orientations aux écoles. Alors, ça a donné des instructions tardives et confuse et certains contradictoires. Il y a dans le document remis au centre de services scolaires, on encourage les activités d'observation du phénomène, mais le point suivant, c'est faut garder les élèves à l'intérieur en tout temps.
Alors, c'est difficile d'observer ça de l'intérieur.
Et oui, exactement. Donc, ça a amené les centres de services scolaires à devoir prendre des décisions face à en ayant en main ces orientations là plutôt confuses. Et on a vu là dès le tout début du mois de février, nous on a vu une vague de centres de services scolaires qui fermaient, qui annonçaient le déplacement d'une journée pédagogique pour la placer le 8 avril. Hein? Et nos membres ont commencé à nous interpeller un peu en panique parce qu'ils se préparent depuis des mois, ils sont formés, ils sont équipés et donc ils se sont
disent vos membres, justement?
Ils sont fâchés, ils sont très fâchés, ils vivent beaucoup de frustration. Mmh. Même certains centres de services scolaires qui sont équipés de lunettes se sont vus interdire la distribution de ces lunettes-là aux élèves. Et tout ça avec le souci, selon les centres de services scolaires, d'assurer la sécurité des élèves. Mais nous, on se demande bien comment on peut assurer la sécurité des élèves en les renvoyant à la maison ou au service de garde, dans un environnement moins encadré qu'il aurait été avec leur enseignant bien formé ou leur enseignant de sciences, même au secondaire.
Là, on parle d'école secondaire ou de primaire?
Les deux, primaire et secondaire, c'est ça.
Parce que ce qu'on a entendu, c'est que les enfants petits de 6 ans et moins, c'est difficile finalement de faire passer le message de garder les lunettes, etc. Mais en fait, ça concerne aussi les écoles secondaires, si je comprends bien.
Oui, exactement. Les centres de services scolaires qui ont décidé de fermer ont fermé pour le secondaire également.
Alors que ces élèves-là sont peut-être plus informés finalement sur tout ça.
Oui, absolument.
J'aimerais qu'on parle peut-être du beau côté des phénomènes intéressants et des activités pédagogiques, des choses qu'on peut faire finalement pour profiter. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on peut faire?
Bien, il y a beaucoup de choses différentes qu'on peut vivre pendant l'éclipse. Bien, déjà, il y a l'observation du croissant de soleil à l'aide des lunettes qui est super spectaculaire, qui est très beau en soi. À mesure qu'on se rapproche de la totalité, le soleil devient un croissant de plus en plus mince et ça devient comme une source de lumière de plus en plus petite dans le ciel. Puis là, ça cause plusieurs phénomènes auxquels on n'est pas habitué parce que dans la vie de tous les jours, le soleil n'est pas une source de lumière infiniment petite dans le ciel d'habitude. Ça fait que si on regarde, par exemple, en dessous des arbres, dans l'ombre des feuilles, on peut voir plein de petites lunes. Ça projette une image du soleil. On peut le faire nous-mêmes avec une passoire ou en perçant un trou dans un carton. On peut aussi s'amuser à projeter la lumière du soleil sur un carton, par exemple, pour voir une image du soleil. On voit l'image du croissant du soleil qui rapetisse graduellement. Il y a des phénomènes super intéressants qui se passent juste avant la totalité. Donc, la totalité, c'est quand la Lune cache complètement le soleil, je vous rappelle.
C'est la grande noirceur, c'est
ça? Oui, et c'est ça qui se passe autour de 3h26. Quelques minutes avant, on peut voir une projection des poches de chaleur dans notre atmosphère qui se déplacent. On peut voir ça sur le sol. Ça ressemble à des vagues d'ombre qui se promènent et qui se déplacent super rapidement.
Parce qu'il va faire très froid soudainement, c'est ça?
C'est relié au fait que le soleil devient tellement petit que ça projette une image des déformations atmosphériques qui est cohérente et qui peut survivre sur le sol. Donc, c'est vraiment relié à la taille du soleil dans le ciel. Et ça dure vraiment pas longtemps.
Voit ça sur toutes les surfaces?
C'est
quoi idéalement pour voir ça?
C'est une bonne question. Une surface probablement, une surface comme en béton peut-être, ça serait plus facile. C'est idéalement pas trop accidenté, avec pas trop de texture, pas trop de couleur. Comme ça, on va vraiment bien différencier
ces vagues-là.
C'est ça. Ça ressemble vraiment à des petites vagues et ça dure pas longtemps. Ça dure comme une minute. Donc, faut vraiment garder l'œil ouvert. Fait que là, si vous voyez ça, là, c'est le signal, ça s'en vient. Ensuite, quand la Lune va tout juste cacher le soleil, bien, la surface de la Lune n'est pas parfaitement lisse. Il y a des petites bosses, des petites montagnes. Mmh. Et ça va faire qu'on va voir des petits points très lumineux qui vont apparaître entre dans les vallées des petites montagnes. Et on peut même voir une espèce de coloration rosée au moment où le soleil est parfaitement caché. Mais ça, c'est plus difficile. Ça dure comme une seconde. Et c'est relié à la composition chimique différente du gaz dans la couronne du soleil. Puis là, après ça, on voit la couronne. Donc, la couronne, c'est comme Plus le soleil est actif, plus elle est grande, plus elle est spectaculaire. Puis en ce moment, le soleil est dans sa phase très active. Le soleil passe à chaque 11 ans, il devient actif ou inactif. Et on est chanceux, là, ça concorde avec un moment très actif du soleil. Donc la couronne va être très grande. Ça ressemble à des filaments, presque de barbe à papa, la texture, là, des espèces de cheveux lousses peut-être aussi. Mm-hmm. On dirait que le soleil est échevelé. Et c'est très large dans le ciel. C'est beaucoup plus large que le soleil. Hein. Donc ça, c'est vraiment très spectaculaire aussi. Puis il y a tout ce qui est relié au fait que là, on est dans l'ombre de la Lune. C'est, ce qui est surprenant, c'est que rapidement, il se met à faire froid. Rapidement, les insectes sortent s'il y en a. Là, on est comme à la limite. Là. Mais c'est parce que c'est pas juste que l'ombre apparaît sur nous puis là, il faut attendre pour que ça se refroidisse. C'est que la poche de froid se déplace avec l'ombre. Donc, on se fait comme rentrer dedans par la poche de froid, dans le fond. Mm-hmm. Donc, ça, c'est vraiment instantané.
Madame Turcotte, donnez-nous des exemples d'activités pédagogiques à faire donc, en lien avec l'éclipse et des ressources disponibles pour les parents là, qui, dont les enfants seront en pédagogie. Moi, je sais que les vôtres seront avec vous.
Oui, donc, oui, on a la chance d'être dans un centre de service scolaire qui reste ouvert. J'écoutais toute la description des phénomènes observables. Dans une école secondaire, il y a certains enseignants qui vont avec leurs élèves, en fait, en amont, ils vont faire des activités avec eux, vont les questionner, qu'est-ce que vous croyez qui va arriver lors de l'éclipse, quel phénomène on pourrait observer, et ils vont même programmer des capteurs pour capter, en fait, la luminosité, la baisse de luminosité, capter la baisse de température. Les élèves pourront prendre des données pendant la totalité puis analyser ces données-là ensuite. Donc, voyez
devenir
comment...
Devenir scientifique.
Oui, quand on parle de science en contexte réel, là, c'est ça là, qui pourra se passer dans certaines écoles secondaires. Au primaire, des activités toutes simples qui peuvent être faites en amont encore, on suggère aux enseignants et aux parents, en fait, de sortir avec un ballon, un grand ballon qui pourrait représenter la Terre et une petite balle de golf qui pourrait représenter la Lune. Et avec le soleil à l'extérieur, on demande aux élèves de recréer une éclipse. Ça leur permet de comprendre un peu mieux le phénomène. Donc, des activités comme celle-là, ce sont deux exemples seulement, mais il y en a tout plein recensés sur plusieurs sites, là, dont le nôtre, aestq.org. Pour les parents qui nous écoutent, je les invite à, encore une fois sur notre site, à visionner une petite capsule de 7 minutes qui est conçue pour être vue en classe ou en famille, donc un langage approprié pour les enfants qui explique ce qu'est une éclipse solaire et ensuite comment on l'observe de façon sécuritaire.
Oui, j'imagine, M. Gagné, que ça doit être très, très, très enthousiasmant la journée d'aujourd'hui quand on est conseiller scientifique, quand on travaille au planétarium. Est-ce que votre métier, justement, c'est d'intéresser les gens à ces phénomènes astronomiques-là?
Oui, c'est une occasion vraiment unique. Là. Il faut en profiter, puis tu sais, j'essaie le plus
Comment
possible.
Comment vous vous sentez?
Très excité, honnêtement. Là. J'ai très hâte, en fait. Et c'est ça, j'ai hâte de partager ça aussi avec mes enfants, parce que j'en avais vu une, mais avant d'avoir des enfants. Donc ça, là, c'est pas la même chose de partager ce phénomène-là. J'ai très hâte que le plus de monde possible puisse vivre ça, parce que c'est rare que ça vienne à nous. D'habitude, les éclipses totales, il faut les chasser.
Ça sera peut-être une fois dans une vie aussi.
La prochaine à Montréal est en 2205, je crois. Donc, si on court pas après les éclipses totales, là, c'est une fois dans une vie ou moins. Des fois,
c'est moins. Je vais terminer avec vous, Madame Turcotte. Pourquoi, rappelez-nous, pourquoi c'est important comme événement? Peut-être moins pour vous, j'allais dire, en tant que famille, tout ça, mais pour les jeunes et la science et les profs de science.
Oui, en fait, c'est un événement exceptionnel de vivre la science en direct, de vivre un moment d'émerveillement tous ensemble. J'ai vu les images des gens qui l'ont vu. C'est un phénomène extraordinaire qui vient chercher les émotions. J'aime bien quand on associe la science aux émotions. Je trouve que ça...
C'est marquant.
C'est marquant, oui. Ça donne l'occasion aux jeunes, peut-être, de se rendre compte que la science, c'est pas si, rationnel et abstrait, c'est ça, que ça peut l'être parfois en classe quand on le... On l'étudie dans les manuels. Puis on y voit même l'occasion peut-être de créer des vocations. C'est un événement suffisamment marquant, je crois, pour développer des passions et même des vocations chez nos jeunes.
Oui, M. Gagné, est-ce que parce que vous avez vu une éclipse, c'est ça qui a donné votre belle carrière?
Bien, ma carrière était déjà bien en bon progrès à ce moment-là, mais c'est un événement qui m'a marqué et dont je vais me souvenir toute ma vie. Je pense que c'est dans les 7-8 événements que je vais me rappeler le plus longtemps, là, je crois. Là. C'est vraiment quelque chose. Puis c'est vraiment un moment aussi pour s'émerveiller de la beauté de la nature, puis d'être frappé par la beauté de la nature, puis d'être marqué par ça. C'est bien parce que ça nous rappelle qu'on vit dans un monde qui est vraiment plein de beauté. Et c'est relié à la science aussi, oui, mais c'est vraiment aussi, moi je pense, l'émerveillement face à la nature, c'est important.
Oui, bon. Donc on était en compagnie de Jonathan Gagné, astrophysicien, conseiller scientifique au Planétarium de Montréal et professeur associé à l'Université de Montréal, et de Camille Turcotte, directrice générale de l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie au Québec. Merci.
Merci.
Voilà, Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine la réalisation au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter l'émission et si vous l'avez aimée, partagez-la et visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse. On va vous mettre tout plein d'informations sur l'éclipse solaire totale. Je vous souhaite de passer une très belle semaine à notre antenne.